Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, mais pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde du cinéma.
Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film.
C'est un scandale!
Nous déclarons aujourd'hui
le 70e festival de Cannes.
Salut à tous, c'est David Honora et vous êtes dans Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. On remercie au passage le Festival de Cannes et puis aussi spécialement la région PACA qui nous permet de faire ce podcast et qui permet notamment la présence d'Arnaud Bordas qui est avec moi. Salut Arnaud.
Salut David.
Donc Arnaud, habitué de Nos Ciné et qui écrit
tout à fait
le Figaro Magazine. Et on va parler aujourd'hui d'un film qui était très attendu, c'est Okja de Bong Joon-ho, qui est attendu notamment parce que c'est un des trois films Netflix qui sont présents à Cannes, un des deux films en compétition, et que ça a soulevé toute une polémique sur laquelle on va revenir. C'est un film d'aventure pour enfants, l'histoire d'amitié entre une petite coréenne et un super cochon géant sur fond de satire politique, sur l'industrie agroalimentaire. En général, sur Netflix, quand le film est terminé, il faut mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas. Toi, tu le mets comment ton pouce?
Oh, bah, un pouce en l'air, clairement. Deux même. Parce que c'est quand même... Ah. Voilà.
Ah, on est rejoint.
Un invité surprise, enfin pas tellement surprise, on l'attendait.
Salut tout le monde.
On est rejoint par Anaïs Bordage, qui vient tout juste de la conférence de presse du film. Anaïs, ouais. Bordage de BuzzFeed France.
Ça va très bien. J'arrive tout juste de la conférence.
Bon, alors comment c'était cette conférence de presse ?
C'était très intéressant. Y a eu évidemment pas mal de questions sur la polémique Netflix. Est-ce que ce film avait sa place en compétition ? Qu'est-ce que le réalisateur et les acteurs pensaient de cette petite polémique ? Mais au final, il n'y a pas eu trop d'accrocs en conférence.
Tu peux résumer un peu ce que c'est la polémique ? Pourquoi ça fait polémique ?
Oui, bah, en fait, c'est la première fois qu'il y a tous ces films. Donc il y a trois films à Cannes qui sont sur des services de streaming, donc Netflix et Amazon. Et il y a eu une petite polémique parce que certaines personnes estiment que comme les films vont sortir sur ces plateformes et pas en salle, qu'ils ne méritent pas vraiment le titre de film officiel en compétition. Voilà. Sauf que c'est un peu le futur qui se met en marche. C'est une première, donc on essaye de comprendre est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas. Et donc ce matin, pendant la projection, quand le logo Netflix est apparu... À l'écran, il y a eu pas mal de sifflets et de huées, certaines personnes qui étaient visiblement mécontentes que le film soit projeté.
Il y a eu des sifflets, il y a eu des applaudissements aussi.
Aussi, ouais.
Je trouve que c'est typiquement français, ce truc de devoir se positionner, de créer une polémique et de devoir se positionner au lieu de prendre en compte la réalité et de voir ce qu'on fait avec, quoi. C'est-à-dire, se positionner par rapport à la problématique devient plus important que ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans les mains, quoi. Et nous, en tout cas, ce qui nous concerne à notre niveau, ou parler tout simplement du film, quoi, puisque c'est d'un film qu'il s'agit, et qu'il soit diffusé sur Netflix ou en salle, et de toute manière, il y a déjà eu dans l'histoire du festival des films qui ont été projetés qui ne sont pas sortis en salle. On n'a entendu personne à l'époque. Là, comme ça se cristallise sur une multinationale, internationale, tout ça, donc forcément, ça prend des proportions. Et il faut, je pense, veiller à ce que ça n'oblitère pas le film de Bong Joon-ho.
Oui, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est une polémique très franco-française, parce que quand on dit que le film ne va pas sortir au cinéma, en fait, il ne va pas sortir au cinéma en France, notamment pour des questions liées à la chronologie des médias, le fait que si le film sort au cinéma, en fait, Netflix ne peut le diffuser en France que 3 ans après. Mmh. Donc forcément, ils n'ont pas trop envie de faire ça. Ils sont plutôt dans l'optique d'essayer de faire évoluer cette chronologie des médias.
Surtout que c'est une production d'eux, quoi. Donc,
Bah oui, et du coup, il y a un rapport de force qui se crée. Et je trouve, ce que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, le Festival de Cannes, qui est censé être un festival international, est un peu instrumentalisé là-dedans. Et même le jury a participé à ça avec d'à côté Almodovar qui a dit que ça lui paraît très bizarre qu'une palme d'or soit remise à un film qui sort pas au cinéma. Ça a été tempéré derrière par Will Smith, Agnès Jaoui, qui chacun voit aussi l'intérêt de Netflix, notamment de diffuser des films qui parfois sortent pas ou arrivent pas aux gens.
Ah oui, parce que c'est ça la question finalement. Est-ce que Okja aurait pu se monter s'il n'y avait pas eu Netflix, quoi? Est-ce qu'il aurait pu atterrir dans les salles? Est-ce qu'il aurait pu se faire, ce film?
C'est une vraie question, et du coup, on va parler du film, justement. Donc, tu étais en train de me parler de tes petits pouces, Arnaud.
Ouais, non. Moi, j'adore Bong Joon-ho. Je trouve que c'est un des cinéastes coréens les plus intéressants, voire même peut-être le plus grand de ces 10-15 dernières années, à avoir émergé, en tout cas, dans les 10-15 dernières années. C'est quelqu'un en plus qui se remet en question à chaque film, hein, qui est pas toujours là où on l'attend. Et là, en l'occurrence, c'est quand même quelqu'un qui est réputé pour avoir fait des films avec un ton assez noir et acerbe en même temps, et qui là s'introduit dans le domaine du film familial, on va dire, parce que c'est un film qu'on peut, je pense, emmener ses enfants voir, même s'il y a quelques scènes un peu dures au niveau du traitement des animaux. Mais
même visuellement, enfin, il y a un changement de ton quand même. C'est ultra coloré, ultra lumineux. Enfin, on est quand même.
Il y a des passages très belles photos de Darius Kanji aussi. Mais c'est vrai que c'est un film. Ce que tu dis, Anaïs, c'est un des. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Bong Joon-ho, c'est que c'est quelqu'un qui manie la rupture de ton avec une maestria et puis la symbolique visuelle aussi. C'est un très grand metteur en scène. Il y a quelques plans, moi, comme ça, qui m'ont frappé. Il y a notamment un fondu enchaîné quand Okja donc est dans un camion à bestiaux et arrive à New York. On le voit regarder par les trous de la carlingue. On le voit regarder un cimetière et il y a un fondu enchaîné du cimetière sur les immeubles de New York. On voit comme ça la ligne d'horizon avec les immeubles. Où clairement, c'est un plan assez choquant qui frappe et qui reflète le point de vue du personnage sur l'histoire. Ce qui va arriver, c'est que cette arrivée dans la grande ville, dans le monde des humains, c'est un territoire mort, quoi, pour Bong Joon-ho. Il le montre comme ça. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à manier une symbolique visuelle qui est à la fois subtile dans son organisation, dans sa mise en place, mais qui est en même temps très signifiante dans ce qu'elle est censée provoquer chez le spectateur.
Hein. Anaïs, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai été surprise par l'humour, beaucoup, beaucoup d'humour, et encore parfois des blagues un peu poète-poète auxquelles je ne m'attendais pas forcément.
Scato, carrément.
Ouais, voilà. Parce que bon, on a quand même dans les 10 premières minutes du film, donc un super cochon qui se met à faire caca partout, à projeter ses excréments partout, et c'est assez marrant.
Mais en même temps, c'est montré de manière assez naïve, justement, du point de vue de l'enfant.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça reste quelque chose de naturel. C'est dans un cadre très bucolique, au bord d'une petite rivière, avec des frondaisons autour et tout ça.
C'est pas du tout gras ni vulgaire. Ouais. C'est plus un côté enfantin et presque ludique.
C'est bizarrement, c'est un très joli plan, quoi. Mais c'est ça que j'ai trouvé génial et assez surprenant, quoi. C'est qu'il y a un ton... Il y a un ton très, très drôle, très enfantin, et en même temps, une histoire très sombre derrière, un message assez fort sur l'environnement, la protection des animaux, tout ça. Donc, j'ai vraiment été convaincue. Je suis un peu moins convaincue par la fin, enfin, les derniers plans, mais j'ai trouvé ça vraiment super. Et encore, comme tu disais, un changement de ton par rapport à ses films précédents. Donc, c'est cool qu'il se renouvelle et qu'il ne fasse pas tout le temps la même chose.
Ce que je trouve assez intéressant, j'entendais des gens à la sortie de la projection qui disaient qu'ils n'avaient pas aimé, en disant de manière hyper dénigrante « Oh, c'est Belle et Sébastien ». Enfin, sauf que même si c'est Belle et Sébastien, c'est Belle et Sébastien mis en scène de manière... extraordinaire.
C'est tout simplement une belle histoire, hein, Belle et Sébastien à la base. Quoi.
On n'est pas obligé de refouler non plus toute son enfance. Il y a un vrai côté enfantin. Et en même temps, c'est aussi un récit initiatique, c'est-à-dire que la petite fille grandit au travers de l'aventure qui nous est montrée dans le film. Il y a vraiment un. Enfin, ce qui est intéressant avec Bong Joon-ho, c'est que on peut peut le développer un peu. Il est passé par différents genres. Avec The Host, il était déjà dans le film de monstres et le film fantastique, mais du coup pas sur le côté enfantin et plus sur le côté film de monstres, film
plus virant vers l'horreur, quoi,
film catastrophe.
Film social,
film
aussi.
Social. Il y a toujours une couche sociale dans ces films. Il y a toujours aussi une couche d'humour et de décalage qui va parfois être en rupture, comme tu disais Arnaud, une rupture de ton, qui est sa manière de raconter les histoires. Il a aussi fait deux thrillers, deux polars, en fait, qui pour moi sont les films que je préfère, je trouve, parce que c'est là qu'il arrive à le mieux exprimer la précision de sa mise en scène. Donc, réalisé Memories of Murder et Mother, qui sont des polars extrêmement léchés, avec à chaque fois des plans hyper composés.
Mais vraiment... Mother, qui était plus sur le ton de la chronique, c'était pas une enquête comme Memories of Murder. Il y avait une enquête dedans, mais en fait, c'était tellement axé sur la relation
sur
entre la mère et
entre
son
la mère,
fils.
Exactement. Et du coup, et puis le transpersonnage qui là était aussi
C'est son épopée, quoi.
Son ouverture aussi à un cinéma plus international avec des acteurs qui parlent anglais, et notamment Tilda Swinton qui était déjà dans ce film.
Chris Evans.
Et là, ce qui est vraiment brillant, je trouve, dans Okja, c'est que en fait. Quand il commence à rentrer dans l'action, et notamment il y a toute une séquence de poursuite vraiment extraordinaire, c'est hyper pensé dans le découpage, dans la manière de gérer le rythme de sa poursuite, de gérer le montage de sa séquence, et on est emporté. Enfin voilà, pour moi on est dans le niveau d'exigence d'un divertissement grand public du niveau d'un Spielberg. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est permis par le fait que c'est aussi un grand cinéaste qui est à la manœuvre.
Il y a un petit côté E.T. d'ailleurs, en parlant de Spielberg, avec la créature et l'enfant qui essaye de le protéger par tous les moyens.
C'est-à-dire, moi, celui à qui ça m'a fait penser, il est cité explicitement, c'est Miyazaki. En fait, en sortant du film, je me disais, et je dis il est cité explicitement parce qu'il y a une scène où la petite fille dort sur le ventre d'Okja, quoi.
Comme dans
Totoro. Quoi. Donc je pense que c'est tout à fait conscient, hein, de la part de Bong Joon-ho, j'imagine, en tout cas.
Ils en ont parlé à la conférence.
Ils en ont parlé, ouais. Et en fait, en sortant, je me disais, ça m'a fait penser, alors je ne parle pas d'un point de vue formel, là, je parle d'un point de vue plus thématique, mais ça m'a fait penser à une sorte de Totoro réalisé par Terry Gilliam. C'est-à-dire, il y a ce côté, et du coup, le mélange est super intéressant, il y a ce côté film sur l'enfance, naïf, bucolique, il y a même une sorte de panthéisme, hein, qui passe dans certaines scènes du début du film. Et de l'autre côté, ce satire social virulent du monde industriel capitaliste. Alors, c'est pas filmé avec des courtes focales à la Gilliam et tout, mais on retrouve ce ton très satirique. Notamment, j'adore le double personnage de Tilda Swinton, qui interprète deux sœurs qui dirigent la multinationale agroalimentaire, agrochimique, comme ils disent, qui a créé Okja. Elle joue ces deux sœurs avec, et ça, je trouve ça très, très intelligent. Il y a, pendant quasiment la totalité du film, il y a la façade, il y a la sœur jumelle qui est la façade souriante, hystérique, colorée, qui essaie de vendre son entreprise au monde entier, de lui faire accepter. Et dans l'ombre, il y a celle qui règne vraiment, la sœur jumelle, qui elle est acariâtre, désagréable, et qui est la véritable nature profonde de l'entreprise, mais qui ne veut pas se dévoiler, quoi, qui fait exprès de mettre sa sœur en avant. Enfin, ça, c'est montré et amené de manière particulièrement jouissive aussi dans le film, quoi, et notamment à travers l'interprétation de Tilda Swinton, quoi.
Et même ce personnage de Tilda Swinton qui est aussi assez enfantin au fond, enfin, qui est toujours présenté avec ses habits roses, surtout à la fin quand elle monte sur scène avec cette espèce de bavoir, enfin, on dirait vraiment qu'elle est habillée dans des fringues pour bébé.
Ça, c'est la mise en scène qui veulent communiquer au public,
c'est
justement, parce qu'il y a toujours
le choix des costumes est super aussi par rapport à ça, quoi. C'est elle qui gère l'entreprise, mais au fond c'est pas vraiment elle,
c'est une marionnette. La scène d'ouverture, son premier discours, il y a Giancarlo Esposito qui est l'homme de confiance de sa sœur jumelle, qui veille, et on le voit, il dit les dialogues, il est en hauteur comme ça, et il dit son discours avant même qu'elle le dise, pour pour être sûr qu'elle va bien dire les mots qu'il faut dire pour plaire aux médias, tout ça. Donc ça c'est... mais bon, c'est vrai qu'il a, Bong Joon-ho, il a un vrai talent pour faire ça, tout ce qu'il disait sur l'occupation économique et voire militaire des États-Unis en Corée du Sud dans The Host, c'était super bien fait aussi quand même.
Là, d'ailleurs, on a un militaire à un moment dans le métro, un militaire américain dans le métro à Séoul
qui se barre en courant quand Okja fonce sur tout le monde.
Et puis effectivement, ouais, y a le propos politique, ou enfin qui est un propos politique traité effectivement sous la forme de la satire, qui me fait penser d'ailleurs à un autre film qui avait été en compétition à Cannes il y a quelques années, qui est Fast Food Nation de Richard Linklater, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui à mon sens c'était complètement planté sur ce film, qui racontait l'histoire d'un groupe d'activistes qui justement, et ça renvoie à certaines scènes du film de Bong Joon-ho, où il rentre dans une usine à bestiaux, quoi, pour essayer de les libérer, et il y a des parallèles, sauf que là
oui, parce qu'il y a en gros, dans les forces antagonistes dans le film, il faut préciser, bon, il y a l'héroïne, la petite fille, elle est prise entre donc la multinationale agrochimique là, dont on parlait.
Et les activistes.
Et des activistes du Front de Libération des Animaux qui veulent libérer Okja et qui sont dirigés par Paul Dano, le comédien.
Les gentils terroristes à parapluie.
Voilà, mais alors justement, on en discutait un petit peu après le film, là. Il y a une manière de montrer. Moi, je pense que c'est vrai que les activistes pro-animaux ne sont pas du niveau de Tilda Swinton et de ses sbires, mais on les montre aussi dans leur manière complètement déconnectée de la réalité. Et finalement, c'est ça qui est intelligent de la part de Bong Joon-ho, je pense, c'est qu'il reste sur le point de vue de la gamine.
Exactement.
Elle, tout ce qu'elle veut pendant le film, elle le dit, c'est qu'elle veut retourner dans ses montagnes coréennes avec son grand-père et son animal, Okja, et elle veut être tranquille, quoi. Et je pense que les aspects satiriques du film ne passent d'autant mieux qu'on reste focalisé sur le cœur humain et émotionnel du film, reste focalisé sur la petite fille, quoi.
Et du coup ça en fait pas sur le sujet un film vraiment militant, enfin je sais pas si le sujet a été abordé en conférence de presse d'ailleurs.
Bah, ils ont beaucoup parlé effectivement, oui, enfin, le thème est très clair, c'est la défense de l'environnement et la protection des animaux, enfin ça c'est évident, et ils l'ont tous répété à la conférence, quoi. Il y a pas de doute là-dessus, quoi. Après oui, effectivement, ce qui est intelligent, c'est que c'est pas du tout, c'est pas trop manichéen, quoi. C'est-à-dire que effectivement, même les activistes sont pas des super gentils. Enfin, ils ont quand même un peu de nuance. Paul Dano, il a quand même un peu une part mystérieuse, une part un peu sombre. Et puis il y a cet autre activiste.
Je pense qu'il est nourri par l'identité de l'acteur, d'ailleurs.
Ah oui, évidemment. Bah, il était franchement, ce rôle lui va parfaitement et le.
Non, c'est-à-dire, je veux dire, quand il arrive à l'écran, il joue quelqu'un qui est gentil, avenant, très pacifiste, tout ça. Mais comme c'est Paul Dano et qu'il a un physique spécial et qu'il a des rôles derrière lui, qu'il amène un comédien, il amène toujours les rôles qu'il a déjà fait avec lui, quoi. C'est un bagage. Et donc, du coup, je pense que ça joue un peu. Je pense que Bong Joon-ho, il l'a pris aussi pour cette caractérisation, quoi.
Oui, voilà, parce que on sait tout de suite que voilà, c'est pas juste le mec super sympa, peace and love. Et puis ouais, moi j'ai trouvé ça super cool qu'il y ait donc cet autre personnage d'activiste qui refuse absolument de se nourrir parce que voilà, parce qu'il veut rien manger, parce que tout est chimique, tout a été transporté par camion, donc il veut même pas manger une tomate parce qu'elle a été transportée par camion,
et du coup il tombe dans les pommes,
faible, voilà. Et donc en fait même si le film est très clair sur ce message qui est la protection de l'environnement et des animaux, bah les militants qui militent aussi pour ce message là n'échappent pas à la satire non plus, quoi. Donc c'est assez cool, et c'est pas que d'un côté non plus, donc
Et du coup, ce qui est rare, c'est que ce film, vous allez pouvoir le voir très bientôt.
Le 28
sur Netflix,
juin, je crois.
Pas au cinéma, mais le 28 juin sur Netflix. Bah, du coup, on va parler un peu de ce début de festival pour chacun de nous. Anaïs, à part Okja, qu'est-ce que tu as vu qui t'a plu?
À part Okja, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a plu? Rien.
C'est clair.
j'ai vu donc Wonderstruck de Todd Haynes hier soir, et j'ai été très déçue. J'ai trouvé ça assez lourdingue, même si la réalisation, j'ai trouvé, était super ingénieuse, mais au final il y avait beaucoup trop de choses, parce que donc c'est l'histoire d'une petite fille sourde, et 50 ans plus tard l'autre histoire d'un petit garçon qui lui aussi se retrouve sourd après un accident. Et du coup, il y a très peu de dialogue dans le film, puisque c'est raconté de leur point de vue. Mais donc il y a une musique omniprésente que j'ai trouvée très très lourde. On s'ennuie quand même un petit peu. Enfin, je trouve qu'il a pas complètement réussi à transformer justement l'histoire de ces deux enfants qui peuvent pas s'exprimer de la même manière que tout le monde. Donc j'ai été un peu déçue et j'ai trouvé ça un peu lourdingue. Voilà, surtout après Carole que tout le monde avait quand même apprécié, je crois, l'année dernière. Là, j'ai trouvé que c'était un peu. C'était pas non plus une catastrophe, mais c'était pas top.
D'accord. Et Arnaud, alors je sais qu'on a vu ensemble le film de Takeshi Miike qui s'appelle, j'oublie le titre.
Blade of the Immortal.
Blade of the Immortal, donc un film de sabre assez bourrin, j'ai envie de dire.
Ouais,
déjà,
c'est
avec
bourrin.
Un titre pareil. Ça...
Bah, c'est-à-dire, c'est tiré d'un excellent manga que les amateurs de manga de ma génération connaissent parce que ça a été un des premiers qui a fait partie de la vague au début des années 90, qui était publié par Casterman. Et l'histoire donc d'un samouraï en fait qui reçoit en lui des vers qui le régénèrent et qui le rendent immortel en fait à chaque bataille qu'il a. S'il perd un bras, et ben il se recolle le bras tout seul grâce aux vers qu'il a dans le corps. Voilà. Et donc c'est ça en gros le pitch, quoi. Et le problème du film, c'est que c'est son réalisateur, c'est réalisé par Takeshi Miike, qui est un incapable total pour moi, quoi. Ça faisait quelques années que j'avais lâché l'affaire avec lui parce qu'il a une production assez fournie, quoi. Il tourne énormément. Et là, donc, j'ai revu un Takeshi Miike, ça n'a pas bougé. C'est quelqu'un qui n'a aucun sens du cadre, aucun sens de la mise en scène, qui est hyper brouillon, qui se repose uniquement sur le scénario. Voilà, et donc ça donne un film de sabre, enfin on en a parlé un petit peu tout à l'heure David, mais un film de sabre où il n'y a aucune chorégraphie visuelle, c'est comme une comédie musicale pas mise en scène, quoi. C'est déplorable. Et c'est vrai qu'alors moi en plus, enfin je sais pas, toi tu vas peut-être parler du Miike après, mais en contrepoint, moi j'ai vu au marché, parce que moi j'aime bien aller traîner au marché, moi dans la sélection officielle je préfère aller voir les films que les gens ont envie de voir, quitte même à tomber sur des trucs un peu putassiers et rigolos. Mais là moi j'ai réussi à rentrer en fait dans une projection où on projetait 10 minutes du prochain John Woo, Manhunt, qui consacre le grand retour de John Woo au film d'action et au polar, et ça a l'air juste démentiel, quoi. C'est-à-dire on a vu 10 minutes d'extrait du film, quoi. C'était pas terminé, les effets spéciaux étaient pas terminés, mais c'était déjà étourdissant. Enfin voilà, on retrouve justement tout ce que n'a pas Miike.
Est-ce qu'il y a des colombes?
Il y a des colombes. Ouais, j'en ai vu une ou deux. Mais surtout, ouais, on retrouve son sens de la chorégraphie et de l'énergie cinétique, quoi, qui se dégage du cinéma de John Woo, la grâce, en même temps, ça a l'air d'une beauté, c'est comme d'habitude, ça a l'air très sentimental. Et puis, il y a des idées de scène, il y a un moment, une fusillade en forêt avec le flic et le faux coupable, le héros du film, qui sont attachés par des menottes, c'est un grand classique, et qui doivent s'en aller avec une femme qui est blessée, quoi, et qui sont poursuivis par les méchants. Il y a aussi, il y a l'air d'avoir une scène de poursuite en scooter des mers sur une rivière. C'est un film qui a l'air de bénéficier d'un très gros budget. Donc voilà, un gros film d'action classieux par John Woo, ça ne se refuse pas. Et ça, en tout cas, ce que j'en ai vu, ça augure du meilleur. Et ça paraît nettement plus enthousiasmant que ce qu'on a vu avec Miike. Mais peut-être tu voulais en parler, toi, un peu, David.
Non, bah, Miike, je te rejoins complètement. Le film, par ailleurs, est vraiment beaucoup trop long. Il dure 2h20 avec vraiment pas assez d'inventivité dans la mise en scène. Et en plus, c'est très programmatique parce qu'en gros, le personnage principal doit éliminer un certain nombre de samouraïs. Et on sait qu'on va devoir se taper toute la liste des samouraïs qu'il va devoir affronter. Et à chaque fois...
Et ça dure 2h20, d'ailleurs.
Ça dure 2h20 et à chaque fois c'est des confrontations en fait presque plan-plan. Ça a beau être très bourrin et très gore, c'est filmé en longue focale, en assez gros plan, on voit pas du tout l'action, c'est mal découpé.
C'est
pas très intéressant. Moi, il y a un autre film qui m'a plu et qui est en compétition. Et d'ailleurs, je réalise que, en tout cas, pour les premiers films de la compétition qui ont été montrés jusqu'à maintenant, il y a une thématique qui se dégage pas mal sur l'enfance. On a beaucoup de jeunes enfants et le monde vu de leur point de vue ou au contraire autour d'eux. Et j'ai beaucoup aimé Faute d'amour d'Andrei Zviagintsev. Qui est donc un film russe qui a, en fait, étonnamment est pas du tout dépaysant, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait s'imaginer que ça pourrait être un film français ou un film américain assez classique sur l'histoire d'un couple qui se sépare. et qui, dans leur divorce, dans leur colère qui se renvoie mutuellement, oublient un peu leur jeune garçon. Et du coup, le garçon finit par disparaître, et on suit la recherche de l'enfant. On ne sait pas s'il a été kidnappé, s'il a fugué, etc. Et en fait, cette histoire intime qui pourrait être tout à fait banale est filmée avec une maestria de mise en scène, et surtout dans un décor extraordinaire d'une Russie à moitié laissée à l'abandon, avec des grands bâtiments assez fascinants. Et aussi une forêt au milieu des habitations. Enfin, il y a quelque chose qui est visuellement complètement fou et qui donne une ampleur à cette petite histoire que je trouve hyper intéressante. Et pour le moment, c'est un des films qui m'a marqué. Voilà, on est un peu au bout de cette émission. C'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. Vous êtes encore en forme, parce que moi là je suis déjà un peu fatigué.
Bon, ça va.
Pour l'instant ça va, un petit café ça ferait pas de mal, mais
c'est dur le festival. Au revoir.
Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du pop-corn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans Le Pavé dans la Toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.